à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Pierre-André Poirier, bonjour.
Bonjour.
Pierre-André Poirier, vous avez 59 ans, vous avez 4 enfants, vous êtes toulousain, vous êtes de la paroisse du Christ-Rouen, mais vous travaillez à Castres, si j'ai bien compris, aux établissements Pierre Fabre, où vous êtes directeur éthique et conformité pour le groupe Pierre Fabre. Vous êtes rentré chez Pierre Fabre en 1996, c'est-à-dire il y a déjà un petit moment. Et auparavant, vous aviez été directeur juridique du Club Méditerranée, une autre ambiance.
Oui, totalement différent.
Et directeur juridique aussi d'une des filiales du groupe Thalès, c'est bien ça, avant d'être passé aussi chez Péchiné. Bref, vous avez un parcours brillant qui avait démarré avec l'IEP de Paris, puis des études de droit international à l'Université Paris 2 à Sas. Donc, qui fait de vous un juriste qui a un regard sur le monde et qui a un regard à travers les entreprises multinationales dans lesquelles il a travaillé sur la complexité géostratégique du monde. Donc, c'est un des thèmes qu'on abordera tout à l'heure. Mais avant d'en venir à ce thème, je voudrais que vous me parliez d'une de vos activités, parce qu'évidemment, comme beaucoup de gens qui sont chrétiens, catholiques, engagés, vous avez un certain nombre d'engagements dans la société civile, entre guillemets, et en particulier, ce n'est pas le seul, vous avez été président régional, et aujourd'hui vous êtes coordinateur, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui sont une association dont je voudrais qu'on parle un petit peu. Association dans laquelle aujourd'hui vous vous occupez de la coordination du développement régional et de la formation sur le plan national. Alors, c'est quoi ces entrepreneurs et dirigeants chrétiens? Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu?
Volontiers, merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, effectivement, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est une association nationale de chefs d'entreprise, de dirigeants de grandes et moyennes entreprises, qui recherche une unité de vie intérieure entre leur engagement de chrétien, puisque c'est un mouvement œcuménique, qu'il s'agisse de catholiques, de protestants ou d'orthodoxes, et leur vie de chef d'entreprise. Donc c'est une recherche d'unité. Et une recherche d'unité notamment portée, éclairée, soutenue par la pensée sociale chrétienne, ou la doctrine sociale de l'Église, qui, comme vous le savez, s'est trouvée enrichie au cours des différentes années par les contributions successives des différents papes.
De plusieurs papes.
Voilà.
Et dont contributions
majeures, et dont on voit aujourd'hui encore toute la pertinence, s'agissant des relations entretenues par l'économie, le secteur économique, les entreprises et leur écosystème général, qu'il s'agisse de l'écosystème externe ou interne lié aux relations avec leurs propres salariés, actionnaires, fournisseurs. Donc ce mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens rassemble à peu près aujourd'hui 3300 membres en France.
Sur toute la France, oui.
Sur toute la France. Il est donc organisé en régions, qui ne sont pas exactement les régions administratives aujourd'hui existantes, mais en régions. Mais ce qui est le socle même et qui est la cheville ouvrière en quelque sorte du mouvement, c'est l'équipe. C'est une équipe qui... autour d'un président d'équipe et d'un conseiller spirituel, qu'il s'agisse d'un prêtre, d'un pasteur, va donc se réunir chaque mois autour d'un thème choisi à l'avance, en lien bien évidemment et illustration de la pensée sociale chrétienne, et qui, après un temps de prière, ou après un temps de très convivial d'un dîner, va donc aborder ce thème en attendant l'éclairage des uns et des autres sur la façon dont ce thème est vécu dans les entreprises, mais aussi évidemment accompagné et éclairé par le conseiller spirituel, puisqu'il s'agit toujours de s'assurer du lien avec la pensée sociale.
Oui, et alors, dans la région, dans notre région, donc j'ai bien compris que ce n'était pas l'Occitanie, mais c'est plutôt Midi-Pyrénées.
Exactement.
Dans notre région, vous êtes combien adhérents
Nous sommes près d'une centaine d'adhérents. Près d'une centaine d'adhérents. Nous avons aujourd'hui 8 équipes actives. Donc, c'est une équipe d'à peu près 10, 12, 14 membres maximum. Donc, nous avons 5 équipes sur Toulouse et puis quelques équipes qui ont pu être créées, qu'il s'agisse récemment à Auch, par exemple. Mmh. Nous en avons une également à Montauban qu'il convient de relancer. Mais nous avons réussi à assurer le rayonnement des EDC bien au-delà de la seule ville de Toulouse. Voilà.
Et donc, tous ces gens se réunissent donc par groupe hein, de 10 à 15 maximum autour d'un guide spirituel hein, qui peut être donc, chrétien, catholique, protestant ou orthodoxe, sur un thème précis. C'est vraiment, c'est presque un groupe de prière.
Alors, c'est effectivement, parce qu'il s'agit là, une fois de plus, de mettre en œuvre notre foi dans notre contexte économique et d'entreprise. Mais c'est certes la prière, et nous commençons systématiquement par la prière, et nous nous plaçons sous le regard de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une fidélité aussi, évidemment économique, au sens partageons nos expériences et voyons comment, effectivement, nous pouvons nous enrichir les uns les autres par la confrontation des idées. Je vais prendre quelques thèmes qui ont pu être traités au fur et à mesure de nos réunions. C'est par exemple la juste rémunération, ce peut être la subsidiarité dans l'entreprise, l'accueil des plus pauvres, donc des fragilités, quelles qu'elles soient. C'est aussi évidemment la dimension environnementale. Et là, on relie cela à la pensée sociale chrétienne dans la dimension aux évangiles, dont effectivement la terre nous est confiée et comment pouvons-nous contribuer effectivement à la préserver. Et nous savons combien c'est d'actualité aujourd'hui. Donc ce sont des thèmes d'une grande diversité que nous pouvons aborder et qui sont...
Et donc là, vous avez un partage d'expérience, c'est-à-dire chacun dit, ben moi, j'ai, face à telle situation, j'ai fait ci ou ça, ou...
Ouais, alors, il y a... toujours un ou deux membres de l'équipe qui vont préparer le thème, c'est-à-dire qu'ils vont rassembler les éléments très factuels, d'actualité, mais aussi en lien avec les Écritures et avec la pensée sociale chrétienne, de façon à ce que le thème soit préparé, des questions soient, si possible, adressées à l'avance aux membres, de façon à ce que chacun puisse y réfléchir. Ils viennent non seulement des moyens de la façon dont lui-même perçoit et vit le sujet, mais également pour lui-même préparer des questions qui seront posées aux uns aux autres pendant cette réunion. Voilà comment les choses sont organisées, en fait.
Alors, vous avez aujourd'hui un rôle de formateur sur le plan national. Donc, en fait, les gens, les adhérents, on leur propose des formations pour traduire en action les différents éléments qui sont abordés à travers l'étude de la doctrine sociale de l'Église, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ces textes-là, puisqu'il y a aussi des protestants et des orthodoxes. Mais concrètement, en quoi consiste votre enseignement ?
Alors, en tant que formateur national, je ne vais pas former les membres directement. Il s'agit en l'occurrence de former les présidents d'équipe dans leur mission d'animation d'une équipe, de façon à ce que celle-ci, dans son organisation, dans le déroulement des réunions, effectivement conforme à ce que nous proposons à l'ensemble des membres. Sachant qu'il y a une offre que là, le mouvement propose avec des formateurs experts sur... Par exemple, précisément, la pensée sociale chrétienne et ce qu'est le principe de gratuité en entreprise. Prenons cet exemple. Ou la juste rémunération avec des éclairages d'experts sur le sujet. Donc, voilà, moi, ma mission de formateur national, je ne suis pas le seul, du reste, nous sommes 4. C'est donc de former dans les régions les présidents d'équipe qui viennent d'être récemment nommés ou qui vont l'être de façon à ce qu'ils puissent bien endosser la nouvelle responsabilité qui leur est confiée, qui est limitée dans le temps, hein, deux fois deux ans maximum. Mais il est bien que nous le rappelions, quelle est la dimension du mouvement, son lien avec effectivement l'ensemble des contributions de l'Église, les écrits, et au-delà de cela... s'intègre bien dans la vie du mouvement général, dans sa dimension à la fois locale, de l'équipe, régionale, mais aussi nationale. Parce que ce que j'ai omis de mentionner, c'est que tous les deux ans, l'ensemble des membres est appelé à se réunir dans une ville autour d'assises nationales, où vont être partager, intervenir des grands témoins et des ateliers sur effectivement la mise en œuvre de notre foi dans le quotidien de nos entreprises.
C'est une expérience riche et fort intéressante, mais est-ce que vous pouvez nous dire, au fond, quelle est la différence avec ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, où on retrouve des formations à la RSE maintenant à peu près dans toutes les écoles de management. Quelle est la différence? Au fond, cette approche que vous avez entre dirigeants, est-ce qu'elle relève à l'intérieur de l'entreprise de la RSE? Ou est-ce qu'elle relève de la direction des ressources humaines? Ou est-ce qu'elle relève directement du président?
Non, on peut considérer qu'elle peut être associée à une démarche effectivement de RSE si on considère une démarche à la fois sociale et sociétale et environnementale.
Oui, et ce qui en est général, c'est le cas.
La différence ici, et c'est la différence de l'offre qui est nôtre, c'est qu'elle s'adresse effectivement à des chrétiens qui veulent essayer dans cette démarche partagée, et c'est heureux, effectivement, la dimension de leur foi et de retrouver cette unité intérieure. C'est cela qui est important. Et ce que je voudrais également souligner, c'est que nous offrons avec la vie d'équipe un temps, je dirais, de respiration pour ces chefs d'entreprise qui, entre pairs, vont pouvoir partager les problématiques qu'ils rencontrent et problématiques qu'ils ne peuvent ni partager avec leurs équipes, parce qu'ils sont chefs d'entreprise ou dirigeants et on connaît la solitude du chef d'entreprise et du dirigeant, et peut-être pas non plus partager au sein de leur famille. Donc, c'est cette possibilité qui est offerte et qui est en général très appréciée et très recherchée. Et il est vrai aussi que vous avez évoqué si c'était en fait un groupe de prière, certes, mais reconnaissons aussi que nous avons des niveaux, je dirais, d'engagement dans l'Église très différents, de proximité avec une façon de vivre à la foi très différente des uns des autres. Donc, il y a aussi l'enrichissement apporté par des membres qui viennent d'horizons très différents et de tailles d'entreprise elles-mêmes très différentes. Je prends l'exemple de la dimension et la responsabilité sociétale d'une entreprise. Elle va être perçue différemment lorsqu'on appartient à un grand groupe qui va se doter de tout un dispositif qui va permettre la prise de conscience et l'animation de cette dimension.
Avec des indicateurs,
avec des indicateurs, exactement, des publications, des rapports. Et puis, une petite entreprise, voire même un artisan qui a deux ou trois collaborateurs, où évidemment, la question va être abordée de façon très, très différente, sans en perdre de vue, bien évidemment, l'objectif final. Ouais. Et c'est ce regard croisé qui est extrêmement enrichissant.
Très bien. Écoutez, c'est une association entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui a évidemment une certaine influence dans le monde des entreprises et qui montre surtout que, au fond, la foi n'est pas du tout incompatible avec la notion de profit nécessaire pour la survie des entreprises. Et c'est vrai qu'on a souvent le sentiment, quand on écoute des idéologues ou quand on écoute une partie de la jeunesse qui n'a pas bien compris encore, parce que par manque de pratique, ce qu'était une entreprise, on a le sentiment qu'il y a d'un côté les ignobles patrons et de l'autre les pauvres gens qui triment sous leurs responsabilités. Je crois que des associations comme entrepreneurs et dirigeants chrétiens devraient davantage être perçues par le grand public comme des lieux justement où il y a un souci humaniste, un souci social, un souci que portent les valeurs de notre religion, évidemment, et notamment les valeurs de l'Évangile, bien sûr. Et tout ça est très rassurant et a besoin d'être connu. Merci de nous apporter ce témoignage.
Et j'invite bien évidemment les chefs d'entreprise et dirigeants qui seraient intéressés à nous contacter en se rendant sur les sites des EDC, lesedc.org, et ils rempliront, s'ils le souhaitent, une fiche contact et on se fera une joie de les rappeler pour justement échanger sur ce qu'ils recherchent et si les EDC permettent de répondre aux questionnements qui sont leurs.
Donc le site internet edc.org.
Oui, lesedc.org.
Lesedc.org, voilà. Facile d'accès et qui vous donnera tous les renseignements.
Voilà.
Bien, pendant le temps qui nous reste, je voudrais qu'on aborde un deuxième sujet qui est plus en rapport avec des considérations géopolitiques, qui est celui mis en lumière d'abord par la crise du Covid, ensuite par la guerre en Europe entre la Russie et l'Ukraine, qui est celui de l'indépendance stratégique de la France. Et dans le cadre de cette indépendance stratégique, évidemment, beaucoup de gens s'interrogent sur la nécessité de réindustrialiser la France et l'Europe en général, de manière à avoir une indépendance dans un certain nombre de domaines qui nous garantissent nos marges de manœuvre et notre présence dans le monde. Alors, une fois qu'on a posé ce principe de l'indépendance stratégique de l'Europe et des grands pays de l'Europe, évidemment, on se rend compte que dans la réalité, ça va être quand même compliqué de refaire ce qu'on a défait peut-être dans les décennies précédentes, notamment en matière de réindustrialisation. Et évidemment, parce que vous connaissez bien ce domaine, je voudrais qu'on mette l'accent sur la question des médicaments. On a vu avec la crise de Covid, aussi bien d'ailleurs, pas uniquement les médicaments, mais les masques, le problème des masques, où on était complètement dépendant de l'Asie et de la Chine en particulier, mais aussi pour tout un tas de médicaments où on est dépendant de l'Amérique du Nord et de l'Asie également. Et donc on se dit qu'au fond, face à une pandémie, on n'est finalement absolument pas autonome. Et quand on n'est pas autonome, ben on est obligé de faire ce que les autres veulent bien qu'on fasse. Et évidemment, l'indépendance en prend un coup. Donc, vous qui êtes chez Pierre Fabre, un des cadres dirigeants de Pierre Fabre, comme on l'a dit tout à l'heure, quel est le regard que vous portez sur cette question de l'indépendance en matière de médicaments et de pharmacie, de soins en général? Comment vous abordez ce problème? Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec mon analyse? Et est-ce que vous pensez que c'est une chose qui est possible, faisable en France?
En tout cas, merci de poser cette question parce qu'elle est d'une réelle acuité. Et comme vous l'avez dit très justement, la crise du Covid l'a révélé combien nous étions dépendants et dépendants de pays comme la Chine et l'Inde notamment. Il nous faut faire en sorte que nous puissions assurer notre souveraineté à cet égard. Il y va, c'est une question de santé publique et d'indépendance. Avec tous les risques que constituerait le maintien de la situation telle que nous la connaissons aujourd'hui, et comme vous l'avez dit aussi très justement, est le fruit de dizaines d'années, je dirais, d'abandon.
Oui.
Alors que la France figurait, même si c'était encore dans les premiers pays exportateurs de médicaments, mais on avait fait une spécificité, et on avait fait véritablement une spécialité qu'il convenait plus que nécessairement de maintenir, qu'il convient plus que nécessairement de maintenir. Alors quand on a fait ce constat, qui est réel, et une fois de plus combien révélé par la crise, il faut tout de suite se pencher sur les conditions qui permettraient potentiellement de rapatrier effectivement des productions en France, ou je dirais même en Europe, si tant est que cela fasse sens. En fait, les laboratoires français qui sont réunis au sein d'un groupe qui s'appelle le G5 et qui est l'interlocuteur du gouvernement sur ces questions de santé et de relations entre les laboratoires français et l'État ont posé, je dirais, quelques conditions. Tout au moins, on souhaitait attirer l'attention des gouvernements successifs sur la difficulté de l'exercice. Et notamment que des conditions très précises soient posées. Une des conditions, c'est d'abord de faire le constat qu'aujourd'hui, il y a de fortes contraintes pour maintenir une production en France. Alors, évidemment, Pierre Fabre n'est pas la meilleure illustration, puisque quasiment la totalité de toutes nos productions sont en France, et nous en avons fait une volonté, et c'était la volonté de notre fondateur dès l'origine, de maintenir coûte que coûte son activité en France par attachement à son territoire. Mais il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, les contraintes, qu'elles soient de nature réglementaire, puisque c'est une économie extrêmement réglementée et à tout niveau. Et nous savons
ce qu'on peut comprendre.
Voilà, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais on connaît aussi la propension de la France pour développer...
On est les champions de la réglementation.
Sans arrêt des réglementations, des conditions économiques qui sont notamment liées au prix du médicament et d'essayer de mettre un terme aux baisses successives du prix de ces médicaments. Donc, à la fois des contraintes réglementaires, des contraintes économiques et puis aussi des contraintes sociales. C'est-à-dire s'assurer que nous avons les talents en France et que nous, sans doute que nous les ayons, mais surtout que nous sachions les retenir. Et qu'à cet effet, rapatrier
des
productions, la recherche au premier chef, reconstituer une filière chimique digne de ce nom, avec permettant de rivaliser avec les concurrents venant de pays à bas coût, effectivement, c'est là l'enjeu. Et une des propositions qui a été faite, c'était notamment et de l'afficher, comme le font les États-Unis, véritablement une préférence, excusez-moi l'expression, mais une préférence nationale ou européenne. En disant, s'agissant du prix des médicaments, ne pourrions-nous pas donner une prime aux médicaments qui seraient, s'agissant du prix de remboursement et du prix accordé, qui seraient fabriqués en France ou en Europe, qui permettrait ainsi de faciliter et d'encourager les productions nationales.
Est-ce que la difficulté, au fond, majeure, qui explique le fait qu'on ait externalisé vers d'autres continents ou d'autres pays, en tout cas, la production et la recherche, c'est que le problème de la sécurité sociale en France est un problème majeur de financement, connaît un déficit chronique qui est donne l'impression du tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'arrive jamais à combler. Et on se dit, si on rapatrie l'activité, les médicaments coûteront plus cher à cause des réglementations, à cause du coût du travail, etc. Et donc, ça va encore accroître le déficit de la sécurité sociale. Et au fond, l'État est un peu tiré dans deux sens opposés. Comment régler ce problème ? Là, il faut une volonté politique forte.
Il faut une volonté politique forte. Il faut effectivement prendre en compte tous les facteurs que vous avez évoqués, parce que oui, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas ignorer l'incidence que cela a sur l'équilibre des comptes et de la sécurité sociale au premier chef, certes. Mais je dirais, entre différents risques, il faut savoir choisir celui qui semble être le moins important, et alors que la probabilité est réelle. Aujourd'hui, nous avons vu, dans le cadre de la crise du Covid, combien il y avait un réel danger de ne plus avoir accès à des principes actifs. Rappelons-nous sur le curare notamment, rappelons-nous même sur le paracétamol. Il en va d'un enjeu national. Donc, trouvons la voie, et les industriels ont tendu la main et ont fait plusieurs propositions au gouvernement pour qu'effectivement nous parvenions à un plan qui renforcerait du reste les liens entre le secteur public et le secteur privé pour redynamiser la filière santé en France, sauvegarder les emplois.
Qui en a bien besoin à tous les niveaux.
Voilà, mais bien évidemment, cela participe d'une politique industrielle beaucoup plus générale.
Ouais.
Quelques chiffres simplement. Aujourd'hui, nous avons une centaine de sites industriels en France. C'est 45 000 personnes qui sont employées, dont 20 000 simplement en matière dans la production. Et on sait que nous sommes dans une économie générale où les produits de santé vont être de plus en plus sollicités dans la recherche du bien-être, de la longévité, de la durée de vie, et ainsi de suite. Donc là, nous avons une expertise réelle qu'il faut surtout maintenir, développer, enrichir, permettre, et il est vrai que l'État s'y est employé depuis quelques années, l'accès facilité aux données des biobanques qui rassemblent toutes les données biologiques, de recherche, de façon à ce que des recherches croisées puissent être encouragées, financées, de façon à développer une réelle expertise, reconstituer une filière de chimie fine digne de ce nom, qui ne serait pas dépendante, une fois de plus, de sites étrangers, dont on sait très bien, et on le voit avec l'instabilité géopolitique qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, que très rapidement, les portes peuvent se trouver être fermées et nous serions sans aucune ressource.
Ouais.
Parce que la difficulté de l'exercice aussi, c'est de qualifier d'autres sources. Or, en matière pharmaceutique, on ne qualifie pas un sous-traitant d'un claquement de doigts. Donc, oui. Difficultés réglementaires supplémentaires.
Oui, effectivement, ce qu'on peut dire en un mot, c'est que l'indépendance stratégique, sur le principe, tout le monde est d'accord, mais est-ce que les gens comprennent bien les coûts que cela suppose et les sacrifices, ou enfin les choix, en tout cas, qu'il faudra faire? Et qui dit choix, ça veut dire renoncement à certaines choses, peut-être, pour en développer d'autres. Pour l'instant, ces choix ont été faits à contresens de notre indépendance. Revenir en arrière suppose de revenir sur des choix passés qui risquent d'être douloureux, qu'il faudra expliquer pour que le pays comprenne les enjeux. C'est un vaste chantier. Et je voudrais, pour conclure, à travers vous, remercier l'entreprise Pierre Fabre, qui effectivement fait partie des exemples à suivre, où il y a eu cette volonté du fondateur, M. Pierre Fabre, de maintenir la production dans notre pays. C'est un des rares exemples, dans ce domaine en particulier, à mon avis unique, qui montre que c'est possible. Et je pense que le témoignage de cette entreprise devrait servir d'exemple à toute notre collectivité nationale. Monsieur Pierre-André Poirier, notre temps est maintenant écoulé, mais on aurait pu continuer cette discussion et on la reprendra peut-être un jour ensemble sur l'indépendance de la France dans les domaines stratégiques. Donc merci de votre témoignage et à bientôt peut-être.
Merci beaucoup de m'avoir convié. À bientôt.
Au revoir.